Alors, depuis ce matin, nous parlons sur la faveur divine, c'est ça, n'est-ce pas? La faveur divine. Depuis ce matin, nous prions pour la faveur divine qui déclenche les portes ouvertes. Amen. La faveur divine qui déclenche les portes ouvertes. Alléluia. Merci. Amen. Et ce soir, je voudrais exhorter sur une petite chose. C'est un petit sous-thème que je vais appeler « Comment provoquer la faveur divine ?» Alléluia. Voilà, nous parlons de la faveur, mais c'est quoi, un? Et puis, comment provoquer cette faveur dans notre vie? Alléluia. Nous allons essayer de prendre la vie de une ou deux, trois personnes dans les Écritures et nous allons voir ce qu'ils ont entrepris dans leur marche qui a fait que la faveur divine est devenue une évidence. Alléluia. Alors, le thème... Le sous-thème ce soir, c'est comment provoquer la faveur divine. Comment provoquer la faveur divine. Alléluia. Alors, il ne suffit pas de marcher et d'être favorisé. Il ne suffit pas de parler français ou anglais et d'être favorisé. Il ne suffit pas d'être intelligent pour être favorisé. Il ne suffit pas d'avoir les meilleurs diplômes pour être favorisé. Il ne suffit pas d'être beau ou belle pour être favorisé. Alléluia. Alors, c'est quoi la faveur divine? La faveur divine, c'est tout simplement une grâce imméritée. Alléluia. Une grâce imméritée. Vous savez, quand on dit une grâce imméritée, c'est un peu comme si on met une emphase sur grâce. Parce que la grâce est d'abord quelque chose que tu n'as pas mérité. Alléluia. Quand on te fait grâce, c'est parce que tu n'as aucun mérite. Alléluia. Et donc, quand je dis la grâce imméritée, ça veut dire que la faveur est encore plus qu'une grâce, plus qu'une grâce. Alléluia. Donc, quand Dieu fait grâce à quelqu'un, quand Dieu favorise quelqu'un, il ne tient pas compte de son background, et etc., de là où il vient, de ce qu'il a fait dans la vie. C'est juste que Dieu trouve bon dans sa bienséance, dans sa sagesse, dans sa bonté, d'étendre sa main sur quelqu'un. Alléluia. Je crois que l'Esprit de Dieu a étendu sa main sur quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, la faveur divine, c'est encore quoi? C'est cette disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Cette disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Alléluia. Envers l'homme. Alléluia. Et c'est encore quoi la faveur divine, bien-aimé? La faveur divine, c'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause de ses œuvres, non à cause de ses mérites, non plus à cause de ses privilèges, mais par pure grâce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par pure grâce. Je répète, la faveur divine, c'est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Alléluia. C'est également une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un c'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause de ses œuvres. Alléluia. Non à cause de ses œuvres, non à cause de ses mérites ou des privilèges. Mais par pure grâce. Par pure grâce. C'est encore quoi la faveur divine? La faveur divine, bien-aimé, c'est un acte de générosité, un signe d'amour de la part de Dieu. Un acte de générosité, un signe d'amour, d'affection de la part de Dieu. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Alors, nous comprenons là que la faveur divine, bien-aimée, est un programme du ciel qui vous fait ressortir là où vous êtes, qui vous expose à la lumière du monde, qui vous expose au devant de votre saison. Alléluia. Lorsque nous regardons dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 1, nous voyons le Seigneur qui dit à Samuel qu'il a trop pleuré et qu'il doit arrêter de pleurer sur Saoul parce que Dieu l'avait rejeté et qu'il devait aller dans la maison d'un Bethlémite qui s'appelait Isaïe, parce qu'il avait trouvé quelqu'un là-bas qui était un homme selon son cœur et qu'il avait choisi de oindre roi. Mais David avait quoi? David était qui? David avait quelle compétence? Rappelez-vous quand le prophète va aller, toujours dans le même 1 Samuel chapitre 16. Si vous suivez la lecture, vous allez vous rendre compte que Samuel va décider de partir dans la maison d'Isaïe. Et quand il va arriver dans la maison d'Isaïe, un homme sage, un homme avisé, il va donner l'impression qu'il vient offrir un sacrifice. Parce qu'il savait que si Saül était au courant, Saül pouvait le tuer lui-même. Alléluia. Saül devait lui dire, mais je suis encore vivant, tu peux juger mon successeur. Toi aussi, tu es dans la conspiration. Tu es dans la conspiration. Alors il va donner l'impression de venir offrir un sacrifice dans la ville d'Isaïe. Et après, il va aller chez Isaïe et il va demander à voir ses fils. Et la Bible dit que quand le premier va arriver, Samuel va dire certainement c'est celui-ci. Parce qu'il avait les compétences, parce qu'il avait la carrure, parce qu'il était... Non, c'est un homme de guerre. Alléluia. Certainement, il avait fait ses preuves dans la guerre. Rappelez-vous, quand Saül partait en guerre, les frères de David allaient aussi. Et David est même allé là-bas en guerre. Et c'est de là qu'il a tué Goliath pour aller saluer ses frères. Vous vous rappelez? 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. Donc, vous voyez clairement ici que le choix de Dieu ne s'est pas posé sur David parce que David était le plus valeureux guerrier de sa famille. Non. David était le plus intelligent de sa famille. Non plus. David était le plus sage de toute sa famille. Non pas du tout. David était le plus beau. Pas du tout. La preuve, même Samuel s'est laissé tromper par la carrure. Alléluia. Et Dieu va lui dire que vous, vous regardez la carapace, moi je regarde le cœur. Alléluia. Moi, je regarde le cœur. Et c'est très important pour nous, bien-aimés. C'est pourquoi la première chose qui provoque la faveur de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'état de son cœur. C'est l'état de son cœur. Hier, j'ai discuté avec une de mes filles au téléphone et puis elle me racontait comment elle a fait du bien à une dame. Elle est d'un pays étranger. Elle a vu une compatriote malade et elle a accueilli chez elle sans prendre connaissance de qui était cette personne. Et du jour au lendemain, les gens venaient lui dire, ah, la femme que tu as pris chez toi, tu ne sais pas qu'elle est possédée. Regarde, la dame a commencé à faire, la dame était malade, la dame a fait des selles de sang dans toute sa maison. Pendant 3 jours, elle ne faisait que des selles de sang. Et le 3e jour, elle a appelé la communauté. Toute la communauté camerounaise, on est venu à la maison, on a essayé de porter la fille, l'amener à l'hôpital. Et c'est quand elle est partie qu'un compatriote est venu la souffler que, ah, Dieu t'a protégé, la fille là. Tu ne sais pas qu'elle est possédée. Même le copain du gars qui vivait avec le gars est venu dire que, ah, elle se levait souvent nue et marche comme ça. Elle va au balcon. Et elle-même a dit que la nuit, elle se levait, elle va au balcon nue. Et je lui ai dit, tu sais, que ce soit le Dieu, que ce soit le diable, chacune de ces entités spirituelles nous observe en fonction de l'état de notre cœur. Alléluia! En fonction de l'état de notre cœur. Bien-aimé, ce n'est pas l'acte que tu poses qui est important. C'est la motivation qui te pousse à poser l'acte. C'est la motivation. Rappelez-vous dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Le Seigneur dit que quoi dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Moi j'aime beaucoup ce passage. Il dit à son peuple, par Moïse, que n'oubliez pas, souviens-toi de toutes les 40 années par lesquelles je t'ai fait passer par le désert. Alléluia. Il dit, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient quoi? Les dispositions, les motivations de ton cœur. Les motivations, les dispositions. Beaucoup de gens viennent à l'église, ah j'aime Dieu, je vais servir Dieu, je sais Dieu, j'aime Dieu, mais les motivations ne sont pas bonnes. Les motivations ne sont pas bonnes. Bien-aimé, c'est la valeur des motivations de ton action qui te gratifie la faveur de Dieu. Vous allez voir des gens qui ont des cœurs bien, qui ne sont pas chrétiens, hein, et le ciel étend la main sur eux. Vous allez voir des chrétiens à côté. C'est comme s'ils vivent que dans l'endroit où il y a l'ouragan et la tempête. À cause de quoi? L'état de leur cœur. Ils sont rancuniers. Ils sont envieux. Ils sont jaloux. Ils sont méchants. Ils ont tout. C'est pourquoi vous allez dans le livre d'Ésaïe chapitre 58. Dieu va reprocher à son peuple la manière qu'il jeûnait. Alléluia. La manière qu'il jeûnait. Il dit, la manière que vous jeûnez n'est pas normale. Vous donnez l'impression de faire du bien alors que vous ne faites pas du bien. Les motivations de vos cœurs sont méchants. Comment vas-tu jeûner et avoir la rancune dans le cœur? Alléluia. Comment peux-tu jeûner et garder les gens? Il dit que nous sait de jeûner si tu ne nous vois pas. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jeûne, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Les penchants, c'est quoi? Ce sont les motivations de votre cœur. Les motivations. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien aimé. Il continue en disant, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller. Pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le séjour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Humilie son âme. Vous savez, dans l'écriture, l'âme et le cœur ont la même racine hébraïque. Alors, quand on parle de l'âme, on parle aussi du cœur. On parle aussi du cœur. Parce que dans l'âme, il y a ton cœur. Parce que l'âme est le siège des émotions et des sentiments. Et des sentiments. Il dit un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jeune et se coucher sur le sable et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Voyez? Il y a des gens qui prennent le jeûne seulement pour prouver qu'ils peuvent jeûner 21 jours. Pour se prouver à eux qu'ils peuvent jeûner 21 jours. Il y a des gens qui prennent le jeûne juste parce qu'ils ont envie de pouvoir perdre du poids. Ils avaient besoin d'avoir une équipe qui va les encourager. Alléluia. Depuis là, il n'arrive pas à perdre les kilos. Il dit, ah, comme il y a un jeune à l'église, moi aussi j'entre. Voilà, c'est un groupe de pour perdre le poids. Vraiment, avant de prendre le jeûne, il prend ses mesures. Chaque jour, 2 kilos, c'est bien. Je vais enfin entrer dans mon jean que j'avais abandonné. Alléluia. Dieu dit, ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est là où tu mortifies ton âme. Tu examines les motivations de ton cœur. C'était ça qui avait fait la différence avec David. Bien-aimé, je vous dis la vérité. David n'était pas un homme musclé. Ce n'était pas le genre d'homme quand il passait, tu dis, waouh, il a les pectoraux. Hein? Pour dire que David et Goliath se sont mis, il était quand même un sportif. Non, c'était un petit garçon de 15 ans qui n'avait autre chose dans la tête que monter et descendre aussi comme les jeunes gens de son époque. Seulement qu'on le coinçait avec les moutons. Alléluia. On le coinçait avec les moutons. Donc du coup, il n'avait pas le temps d'aller jouer. D'aller jouer. Et c'était aussi un enfant un peu rebelle. C'est pourquoi on l'envoyait au champ. Parce qu'on n'envoie pas au champ quelqu'un qui est obéissant. On envoie quelqu'un qui est rebelle. Que va là-bas, les moutons vont te discipliner. Alléluia. Et donc, il allait au champ. Rappelez-vous, quand il va à la guerre, retrouver ses frères, un de ses frères l'interpelle comme un garçon orgueilleux. Que tu aimes les occasions comme ça pour fuir le travail. C'est sûr que le papa ne t'a pas envoyé, tu as seulement trouvé l'espace pour venir aussi voir. Comme tu es curieux, comme quoi. Alléluia. Et David dit que pardon, calme-toi, j'ai un vrai dossier ici. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Toute ta vie est reliée à ton cœur. Même scientifiquement, c'est prouvé. Le cœur est divisé en deux parties, ventricule gauche, ventricule droit. Et chacun a la mission de pomper et de purifier le sang. Sans ton cœur, bien-aimé, tu es un gars foutu. C'est ton cœur qui stabilise l'atmosphère de ton corps, physiquement parlant. Allez imaginer spirituellement parlant. Tu blagues avec tout ce qui est dans ton cœur est devenu un condengui. Il y a les gens qui sont enfermés depuis 20 ans, 25, 50, 55, 10 ans, 20 ans. Et tout ce que tu as, un jour il va avoir, un jour, Dieu va justifier mon nom. Non, tu es dans la rancune. Tu n'es pas dans la même attitude de Job. Chaque jour, mon rédempteur se lèvera. Non, tu es en train de faire le défi avec les gens. Tu fais le défi avec qui? C'est toi qui dois défier ou bien c'est Dieu qui doit défier toi ou toi. Alléluia. Voyez? Oh, vous faites ça, vous faites ça. Un jour, vous allez voir. Un jour. Qui t'a dit que la minute d'après, tu vas vivre? Qui t'a dit que après qu'on se soit quitté, tu seras encore vivant? Et si tu pars avec ça, tu crois que tu iras au ciel? Je ne pense pas. Les motivations. Dis à quelqu'un, quel est l'état de ton cœur? La colère. Quel est l'état de ton cœur? La tristesse. Il y a des gens qui sont toujours tristes. Toujours tristes! Ils ne connaissent même pas rire, même pour rien. Ils croient qu'ils doivent avoir que des bonnes nouvelles pour être joyeux. C'est faux! La terre, c'est... Allez ouvrir votre télévision. On ne voit que des mauvaises nouvelles, hein. Même les films d'aujourd'hui ne sont que les films d'horreur. S'il n'y a pas le sang qui coule beaucoup, on ne tourne plus. Alléluia. C'est pas ça? Si dans un film, on ne trompe pas le mari de quelqu'un, on ne tourne plus. Si dans un film, la petite soeur ne prend pas le mari de la grande soeur, on ne tourne plus. Ça veut dire qu'on tourne maintenant en fonction des mauvaises nouvelles. Toi, tu attends toujours que, tu attends une bonne nouvelle pour être joyeux. Frère, sœur, tu vas aller en enfer. Parce que la tristesse n'est pas de Dieu. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, de tristesse. Chaque jour, tu crois que la tristesse est liée à la sainteté? Jamais! On va voir, je suis triste. Tu es un holy. Jamais, jamais. La Bible dit que Dieu, parmi les attributs de Dieu, il y a l'esprit de joie. Il n'y a pas l'esprit de tristesse. Alléluia. Il n'y a pas l'esprit de tristesse. Aujourd'hui dans l'église, les gens associent la tristesse à la sainteté, au sérieux, à la concentration, à la consécration. Non. Non. Alors nous, quand on rigole beaucoup, on dit, tu es même pasteur. Quelqu'un m'avait demandé ça. Tu es sûr que tu es pasteur? Tu es en train de rigoler. Tu es en train de blaguer. Tu es en train de blaguer. Une maman m'avait dit ça. Je l'ai accueillie chez moi pour la prière. Elle a fait une semaine. Le troisième jour, on était à la cuisine. J'étais assis sur le congélateur. Une maman qu'elle est venue pour qu'elle prie avec elle. Hein, à la cuisine, j'étais assis sur le congélateur. Je l'ai aidé à faire la cuisine. Elle n'en pouvait plus. Je crois que le premier jour, elle avait encaissé. Le deuxième jour, elle a encaissé. Le troisième jour, elle a dit qu'elle avait posé la question. Il dit, pasteur, tu es vraiment un vrai pasteur. Il dit, pourquoi? Parce qu'on a associé les pasteurs à une certaine façon de faire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, si le pasteur, il doit être sérieux, il ne rit pas, il se parle seulement que la parole. Quand tu dis un truc, il dit que c'est écrit où? La parole dit que. C'est ça qui a stressé maman quand je venais lui demander sa main. Deux jours, elle a dit que je ne connais pas les versets bibliques. Le type là va me tuer avec les versets bibliques. J'ai dit, calme-toi. Chacun va à son rythme. Alléluia. Chacun va à son rythme. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois vivre une vie chrétienne normale. Quand tu étais dans le monde, tu riais pour tout et pour rien. Quand tu es devenu chrétien, tu es triste pour tout et pour rien. Ça, c'est quel monde? De quel côté tu devrais être la plus joyeuse? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Tu es sûr? Tourne-toi vers ton voisin. De quel côté tu dois être joyeuse? Ah, tu ne réponds même plus. Parce que tu as la honte. Tu te vois. Alléluia. Dans le monde, tu étais joyeuse. Tu dansais pour tout. Tu sautais pour tout. Depuis que tu es entré dans la maison de Dieu. Même quand on fait la loi, tu remets. On est chanté. Tu as le macabre de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, il y a une seule activité que nous allons faire au ciel pour l'éternité. Et c'est ici sur la terre qu'on apprendra à le faire. Louez Dieu! Louez Dieu! Qu'est-ce qui a fait de David l'homme qu'il est devenu? La louange! La joie! Néhémie dit, la joie de l'éternel sera ma force. La joie de l'éternel, toi tu dis non, la joie de l'éternel sera ma faiblesse. La joie de l'éternel, tu es joyeux seulement pour le temps où, le jour que tu as une nouvelle montre, tu es joyeuse. Ah, alléluia, j'ai bien béni le Seigneur, j'ai bien, alléluia, alléluia. Je n'avais pas les montres. Et le Seigneur a pourvu, on m'a donné une montre. Gloire à Jésus! La minute tu sors de l'église, tu sors, tu arrives ici à Kapu Bipaka. Un mauvais souvenir revient. Que, ah, ton bailleur t'attend. Est-ce que je peux avancer? Ah, tu ne réponds plus. Je crois qu'elle doit arrêter. Alléluia. Ah, pension de l'enfant. Ah, je rentre dormir sans manger. Je rentre encore m'insulter à la maison jusqu'à. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, ne laissez pas les circonstances dicter votre paix, dicter votre joie. Sinon, les circonstances vont devenir des trafiquants de votre joie. Vous allez payer pour être heureux. Vous allez payer pour être... Ah, ah. Frère, toi-même crée ton univers de joie. La Bible dit que la joie est un médicament pour les os. Bien, j'ai l'impression que c'est pourquoi dans l'église il y a beaucoup de malades, hein? Parce qu'ils ne boivent pas le premier antibiotique que Dieu leur a donné gratuitement. La joie. La joie. On dit que la joie est un médicament pour vos os. Chaque jour, tu dis, papa, j'ai mal, les rhumatismes, j'ai des douleurs, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, mon poitrine fait mal, j'ai les maux d'estomac. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est quoi? Chaque fois que tu es triste, ton estomac se contracte et se frotte. Et plus tu es triste, ton estomac se contracte. Et quand tu es triste, ça baisse ton attention pour manger. Et tu ne manges pas. Tu peux passer toute une journée à ruminer la même situation. Ton estomac se frotte, ça crée ce qu'on appelle des lésions. Et ça devient des ulcères d'estomac. Et tu commences à boire les médicaments. Mon père avait ça. Non, c'est que tu as hérité de la même tristesse. Moi, j'ai décidé d'être heureux. Avec ou sans argent. Avec ou sans maison. avec ou sans frère, avec ou sans mari, avec ou sans épouse, avec ou sans argent. Parce que mon rédempteur est ma joie. On peut avancer? L'état de ton cœur. Alors nous parlons de la faveur. Quand la faveur divine vous projette au sommet, personne ne peut vous faire descendre. Personne. Personne. La deuxième chose qui provoque la faveur dans la vie d'un homme, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8, pardon. Le verset 3 à 8. Il dit, ce que Dieu veut, ce que, ça veut dire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Une convoitise comment? Passionnée. Quand on dit passionnée, ça veut dire que la passion c'est quoi? C'est lorsque c'est une émotion exagérée. Alléluia. C'est quelque chose d'exagéré. Quand tu convoites, tu ne convoites pas comme tout le monde est normalement, mais tu convoites jusqu'à devenir sorcier. Alléluia. Vous savez, la base de la sorcellerie, c'est la convoitise et l'envie. Hein. C'est la classe numéro 1. Amen. Jardin Macabo. C'est là-bas qu'on vous recrute. Ainsi Jésus. Est-ce que je peux avancer? Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Appelez-vous. David va chuter dans sa vie de marche. Il va tomber dans le péché. Il va être impur devant Dieu. David va faire une prière dans le psaume 51. Il dit, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Ha, ha. David dit, non. Enlève-moi la royauté. Enlève-moi le trône, enlève-moi l'or, l'argent, mais ton esprit. C'est ton esprit qui me rend capable. Bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 1, le verset 8 à 9. Daniel chapitre 1, le verset 8 à 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Oui. Combien d'enfants de Dieu arrivent à toutes les fêtes, ils croient qu'ils ont autorisé à manger tout ce qui est sur la table. Alléluia. J'arrive et je vais rompre mon jeûne. Enfin, j'ai cherché même là où il y avait la nourriture. Ah. Vous croyez que Daniel ne voyait pas les poulets, les méchouis qui étaient sur la table de Nebuchadnezzar? On dit la table du roi. Alors la table du roi, on ne met pas n'importe quoi là-bas. Il y a des tables que tu ne dois pas aller manger. Il y a des tables que lorsque tu vas manger, ça va affecter ta spiritualité. Alléluia. Il y a des tables. Il y a des tables. Mieux tu rentres chez toi, tu suces ton orange, tu dors. Tu es sûr d'avoir un bon sommeil. Que de manger le méchoui toute la nuit, tu te retrouves dans une marmite. Alléluia. Amen. Rappelez-vous dans le livre de Genèse chapitre 39, la Bible dit que la femme de Potiphar va chercher à coucher avec Joseph. Alléluia. Avec Joseph. Joseph va dire, C'est pas possible. Ça, je vais me souiller devant mon Dieu. Alléluia. Je vais être souillé devant mon Dieu. Il y a des choses que tu vas faire dans le secret, personne ne va voir. Mais Dieu t'a déjà vu. Alléluia. Dieu t'a déjà vu. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de frère en Christ, il n'y a pas de soeur en Christ. Dieu t'a vu. Alors je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous savez, la loi avait quelque chose d'extraordinaire. La loi, c'était que tu étais jugé en fonction de l'acte que tu avais commis. Alléluia. Alors si on t'attrapait en flagrant délit d'adultère, tu étais lapidé. Mais si on ne t'attrapait pas, ça va. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, mais la grâce de Dieu dit ceci, que si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Alors, qu'est-ce qui est plus dangereux que l'autre? Vous voyez que la grâce juge jusqu'à nos, l'intention de nos cœurs, les motivations de nos cœurs. C'est pourquoi Jésus, quand on va amener cette femme qui avait commis l'adultère, et on va le confronter à la loi. La Bible dit que Jésus connaissant déjà leurs pensées. Alléluia. Jésus va se mettre à écrire sur la terre. Et quand il va lever la tête, il va dire juste une chose. Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Tout le monde a été jugé à l'intérieur. Chacun a pris sa pierre, il l'a mis dans la poche, il a dit, l'affaire si est fort. Alléluia. Jésus les a renvoyés à leurs intentions. Frère, nous vivons un temps où on va nous faire croire que nous sommes autorisés à faire tout. On n'est pas autorisé à faire tout. On n'est pas autorisé à manger tout. On n'est pas autorisé à voir tout. J'ai envie de dire à quelqu'un que tes yeux, c'est les yeux du Seigneur. Tu crois que les yeux du Seigneur vont aller s'asseoir là où on fait le commérage avec la bouche du Seigneur? Toi, tu as la bouche du Seigneur. Dis à ton voisin, tu as la bouche du Seigneur. Tu utilises sa bouche pour mal parler des gens. Hein? Si en parlant, Dieu tape ta bouche, tu dis que quoi? Ta bouche, c'est sa bouche. Ton corps, c'est son corps, n'est-ce pas? Hein? Fais attention. Tu n'es pas le propriétaire de ce corps. C'est mon corps, je fais de ça ce que je veux. C'est faux. Tout le monde rendra compte de la gestion de ce corps-ci qui est la poussière là. Chacun va rendre compte de ça. Qu'est-ce que tu as fait de ce corps? On t'a donné un véhicule pendant ton séjour sur la terre. Tu as utilisé le véhicule comment? Tu es allé faire les comment on appelle ça? Les vidanges? Combien de fois tu as fait les vidanges? Tu as mis quelle qualité d'huile dans ton moteur? Le moteur, c'est ton cœur. Tu es allé où? On te donne une voiture neuve. Tu vas dans les quartiers difficiles avec. Le pot d'échappement, on vole. Alléluia. C'est quoi? Vous allez voir des chrétiens sans pied. Tu pars partout. Tu pars partout. Quand on parle de sanctification, on parle de consécration. Quelle est la qualité de ta consécration? Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu mens. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours dans la colère. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours dans le mensonge. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu regardes les films impurs. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours, je ne sais pas. Alléluia. Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Es-tu un vrai enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 24, le verset 3 à 4, la Bible dit, David dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il pose deux questions. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il dit, voilà, la réponse, David répond. Il dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes et le cœur pur. Il dit, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui vient, il sait que ce que tu dis est faux. Il te fait l'œil comme ça. Je soutiens mon mensonge. Tu es chrétien, tu soutiens le... Tu dis, oui, oui, il l'a fait. Ah! Je dis que, gars, tu m'as sauvé. Hein? Hey! Et tu rentres à la maison. Oh Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai menti. J'ai soutenu le mensonge. Tu veux quoi là? Ça commence toujours comme ça, un peu. Tu soutiens. Après, tu commences à trouver que c'est normal. Après, tu trouves que non, il faut être loyal. Il faut être fidèle. Il faut avoir des bons amis. Et te voilà qui te complaît dans leur péché avec toi. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Alors, si vous menez une vie souillée, alors vous vivrez dans la défaveur. Puisque Dieu est saint et vous ne pouvez marcher avec lui que si vous êtes saint. Alléluia. Une autre clé pour provoquer la faveur. Alléluia. Je peux avancer? Soyez une bénédiction. Vous voyez? Soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 à 16. Le verset 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve, une femme veuve de te nourrir. Et il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher. Je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je le boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ah! Aujourd'hui, quand Dieu bénit un enfant de Dieu, garde ça pour lui. Si Dieu te donne un salaire de 10 000, de 100 000, de 500 000, d'un million de francs, tu deviens le plus chiche, tu conditionnes tout le monde pour aider. Tu conditionnes. Attends que je prie pour voir si Dieu me convainc de te donner. Non. La veuve de Sarepta n'a pas pris de temps de jeûne pour demander la pensée de Dieu. Seigneur, est-ce que je donne ou je ne donne pas? Élie arrive, il a faim. Il dit, madame, donne-moi à manger, donne-moi de l'eau. Elle part lui donner de l'eau. Elle revient. Il dit, fais-moi un peu de pain là. Elle dit, papa, il n'y a pas de... Il y a un peu de farine et un peu d'huile. C'est juste la quantité de mon enfant et moi. Et nous, on va faire un petit bois là, on va manger. Et après quoi, on va mourir. Ça veut dire que c'est fini. Après ça, c'est la mort. Et lui dit que, ok, fais comme tu as dit. Sauf que tu vas corriger la faim. Alléluia. Donc, va et fais. Tu commandes d'abord par moi. Alléluia. Tu commandes d'abord, ensuite tu fais pour toi et pour ton fils. Vous voyez? Parfois nous croyons que c'est quand Dieu va nous bénir beaucoup que nous allons donner. Quand j'aurai beaucoup, je vous bénis. Vous savez, nos parents savaient qui était chiche, qui était généreux en fonction de ce qu'ils avaient comme petit et la manière qu'ils distribuaient aux autres. Et papa prend la nourriture, il donne à celui-ci, il dit, partage à tes frères. Le gars donne, il coupe un peu, il dit, chiche, mets-toi à côté. On donne à Y, Il donne tout, il n'a pas pour lui. Il dit, on dit, mais tu n'as pas, il dit, non, ça va manger. Ça, c'est le bon. Le généreux, c'est celui qui est capable de se priver pour que les autres soient heureux. C'est ça, une bénédiction. Une bénédiction n'est pas en fonction de ta capacité à avoir toujours, non. Quand ce que tu as, le peu que tu as, tu le donnes aux autres. Tu es une bénédiction. Alléluia. Jésus, pour la première fois, va aller au temple. Pour une des fois où il va aller au temple, et pour la première fois dans l'histoire de la Bible, Jésus va aller vérifier le tronc là où on dépose les offrandes. Un jour, il va arriver à l'église, il va regarder comment les gens donnent l'offrande. Et une veuve va venir. Elle va donner sa dernière pièce pour vivre. Et un riche va venir. Il va jeter une grosse bourse qui fait du bruit. Le genre, quand ça tombe dans le tronc, directement la louange sort de l'autre côté. Alléluia, alléluia, alléluia. Na Yesu. Ah, il danse. On dit, voilà celui qui s'est donné. Alléluia. Voilà. Et Jésus va venir faire une prédication compliquée. Jésus va dire, cette veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et lui, il a donné son superflu. De ces deux, Dieu avait validé l'offrande de la veuve. Et il avait désapprouvé l'offrande du riche. Bien-aimé, quand tu as 10 000, quand tu ne sais pas donner quand tu as 10 000, tu ne pourras pas donner quand tu auras 1 million. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu ne sais pas donner quand tu as 10 000, tu ne pourras pas donner quand tu auras 1 million. Les mamans connaissent les enfants, parmi leurs enfants, qui est généreux que l'autre. Alléluia. Si je dis à maman Sylvie, lequel de tes enfants est généreux, elle va dire. Parce que ça a commencé depuis le bas âge. Ce n'est pas maintenant. Elle a observé sa manière de faire depuis le commencement. Si elle dit à maman Dani Blanc, lequel de tes enfants est généreux, elle va me dire, elle va même pas hésiter, telle. Alléluia. Alléluia. Et c'est souvent ça le problème. Et Dieu, vous croyez que vous qui avez la capacité de savoir qui est généreux, vous pouvez tromper Dieu. Voyez, c'est lui qui recherche le bien, s'attire de la faveur. Proverbe chapitre 11, le verset 27. C'est lui qui recherche le bien, s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Bien-aimé, ce soir, poursuis le bien. Recherche le bien pour les autres. Recherche le bien dans la vie des autres. Recherche le bien pour les autres. Et la grâce de Dieu marchera pour toi. Et la grâce de Dieu te fera du bien. Alléluia. Quand tu es une bénédiction pour les autres, les hommes et les femmes égoïstes ne pourront pas s'approcher de toi. Alléluia. Quand vous faites un effort pour bénir les autres, vous aurez une grande faveur comme la veuve de Sarepta. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous voulez donc que Dieu vous fasse entrer dans ses grâces, qu'il vous favorise en cette année 2024, commencez à faire grâce aux autres. Commencez vous-même à être une bénédiction. Commencez vous-même, donnez un pantalon, donnez une culotte, donnez un chapeau, donnez une couverture. Alléluia. Faites du bien à quelqu'un à côté de vous avec le peu que vous avez. Et Dieu multipliera. Alléluia. Alléluia. Prenons ces derniers éléments et on va prier. Et une autre clé pour provoquer la faveur divine, le don sacrificiel. Ah oui. N'oubliez pas que le don est à plusieurs niveaux. Il y a le don premièrement de soi-même. Vous savez, beaucoup de gens viennent donner de leur argent mais ne se donnent pas à Dieu. Alléluia. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Vous devez savoir que Dieu a fait le don de son Fils pour le salut de l'humanité. Alors, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous soyons nous-mêmes des sacrifices. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, il dit que le verset 1, il dit que nous devons être des sacrifices vivants, vivants, des sacrifices vivants, bien-aimés. Être Es-tu un sacrifice vivant? Es-tu un sacrifice vivant? Es-tu un sacrifice vivant? Avant d'apporter ton don matériel, ton don financier, il faut que ton don de toi-même, de ta vie, soit sur l'autel. C'est comme ça que Jésus a validé le don de la veuve. Elle se donnait elle-même. Ce n'était pas la grosseur, c'était qu'elle se donnait elle-même. Elle se donnait tout entière. Elle dit, Seigneur, tout ce que j'avais pour vivre, je te donne. Je dépends de toi. La minute d'après, je dépends de toi. Je dépends de toi. Est-ce que tu dépends de Jésus? Est-ce que tu dépends de Jésus? On est pressé de dire Amen. 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 Psaume 126, le verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, le verset 5 à 6. Bien-aimés, quand nous nous donnons nous-mêmes en sacrifice à Dieu, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. De venir tôt à l'église. Fais ton travail, fais ton service. Alléluia. De venir tôt, d'abandonner un certain nombre de choses. De venir te mettre à la disposition des autres. Alléluia. Ce n'est pas facile. À un moment, tu te dis, je vous assure, il y a des jours où j'ai même pas envie de comprendre l'église. Il y a des jours où j'ai même pas envie d'entendre la parole de Dieu passer à côté de moi. J'ai même pas envie de comprendre la route de Bifaka. Il y a des jours que j'ai même pas envie de lire un message de qui que ce soit. Pardon, laissez-moi. Alléluia. J'ai juste envie d'être une personne normale et ordinaire qui se préoccupe lui-même de lui-même, plus des autres. Si vous savez combien de messages je lis par jour, des longs messages. Je m'assois, je lis. De quoi parfois, ces derniers temps, comme on fait des coupures de lumière, je suis heureux. Vous savez, parce que mon wifi se coupe. Et du coup, je ne suis plus connecté. Alléluia. Du coup, on m'écrit. Bonjour, papa. Il y a des gens qui commentent, bonjour, papa. Tu dis bonjour, c'est fini. Il y a des bonjours qui laissent même 2 jours avant de répondre le 3e jour à 2 heures du matin. Bonjour. Donc quand tu reviens à 8 heures, j'ai dit bonjour depuis. Donc du coup, tu ne sais plus si tu dois continuer ou tu essaies encore de dire encore un nouveau bonjour. Alléluia. J'attends encore à 3 heures. Et j'ai encore bonjour. Mais c'est à l'heure là parfois que je suis debout pour travailler. Alléluia. Alléluia. Es-tu toi-même un sacrifice vivant? Seigneur, je t'aime. Seigneur, je vais te servir. Seigneur. Deutéronome 8, verset 2. Il va te prouver pour connaître quelles sont les vraies intentions de ton cœur. Vous savez, au fond du cœur de chacun aimerait venir à l'église et tous ses problèmes se règlent. C'est pas ça. On cherche les hommes de Dieu qui vont t'imposer les mains à peine tic-tac, les problèmes déménagent. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vos problèmes quittent vos vies, votre vie chrétienne n'aura plus de sens. Vous avez besoin de ces problèmes pour venir à l'église. Alléluia. Parfois, tu sautes 2, 3, 4 jours, une semaine, tu ne viens pas à l'église. Un matin, le problème devient comme le piment. Tu cherches la route de l'église sans comprendre ce qui se passe. Quand tu arrives, le message sort. Bam! Tu dis, papa, c'était mon message. Tu étais où d'abord pour savoir que c'est ton message? Alléluia. Alléluia. Cherchons. Donnons-nous. Donne-toi. Donnons-nous. Donnons-nous. Vous savez, la première personne à qui nous devons nous donner, c'est à Dieu. Amen. La deuxième personne à qui nous devons nous donner, c'est au frère. Oui, bien-aimé, tu es une offrande à ton frère. Tu es une offrande pour ton frère. Tu dois te donner à ton frère. C'est écrit, Paul l'a dit. C'est écrit. C'est écrit. Il y a quelques jours, je suis allé voir mon père, papa André, parce que je voulais lui faire une offrande pour la nouvelle année. Alléluia. Je suis allé. On a discuté. Après, il dit, papa, comme chaque début d'année, il faut que... Alléluia. Il a pris, il a béni. Je suis reparti là-bas hier. On avait un autre dossier à gérer. On a fini. Et quand je suis entré, il y avait des pasteurs là. Il m'a dit, viens t'asseoir à côté de moi. Et quand je suis venu m'asseoir, on a commencé à travailler sur sa machine. On discutait. Et puis, son épouse est venue, ma Martine. Elle est venue, elle a pris son téléphone. Elle a dit, vraiment ça, je vais filmer. Vous deux comme ça là, je vais filmer. J'ai dit, maman, pourquoi? Elle dit, non. Là, c'est une photo magnifique. Parce que nous avions un fils. Il est parti. Dieu l'a remplacé à côté de son père. Comme tu es venu remplacer ce fils-là à côté de ton père. En d'autres termes, tu es devenu le don pour la vie de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque jour, je rends ministère dans votre vie. Je suis un don à votre disposition. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis un don à ta disposition. Un don. Quand je viens à toi, je rends ministère. C'est un don. Alléluia. C'est un don. Quand tu viens, tu vas avec ta soeur, tu fais du bien à ta soeur, tu es un don. Alléluia. Tu arrives à l'église, tu vois que la soeur, elle a toujours la même Valérie depuis 6 mois que tu la connais. Elle a déjà cousu. Elle a cousu sur la couture de 4 fois. Tu dis que non. Tu pars en Dokoti, tu pars au marché chinois. Tu dis, s'il vous plaît, donnez-moi 6 paires. Même pointues, différentes couleurs. Tu viens avec le sac. À la fin, tu dis, sœur, s'il te plaît. Alléluia. S'il te plaît. Ah, tu es un don. Tu as besoin que l'ange descende pour dire, ma vie, Suzanne, va je maman, jette dans lui de nouvelles chaussures. C'est l'ange du diable. Tu dois être sensible à la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être sensible à la vie de l'autre, aux besoins de l'autre. Et maintenant, le don sacrificiel. Quand nous parlons, je vous ai dit, nous sommes un don au premier niveau, à Dieu, n'est-ce pas? Romains 12, le verset 1. Alléluia. Ensuite, nous sommes un don pour les frères. Ensuite, nous apportons aussi nos dons matériels. Nos dons matériels. 2 Samuel chapitre 24, le verset 22 à 24. 2 Samuel chapitre 22 à 24. Rappelez-vous quand David était frappé par une des plaies de Dieu à cause de son dénombrement. Dieu va lui demander de choisir les fléaux. Il va choisir un fléau qui va tuer une partie de la population. Et l'ange de la mort, Dieu va ouvrir les yeux de David et David va crier à l'Éternel. Et Dieu va ouvrir ses yeux, il va voir l'ange aller s'arrêter sur l'air d'Arafna. Alléluia. Dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 22 au verset 24. Et David va décider donc d'aller... Et le prophète qui avait également montré à David là où l'ange s'était arrêté, le prophète va lui dire d'aller faire une offrande là-bas à Dieu. Amen. Et David va arriver là-bas, il va se rendre compte que cet endroit appartenait à Arafna, le Jébusien. Et David va demander à voir l'endroit. Et le Jébusien va dire, hey, mon roi, qu'est-ce qu'une terre entre toi et moi? Prends. David dit, non. Si elle prend gratuitement, ça veut dire que je méprise mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que David va dire, je veux l'acheter de toi et à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes, qui ne me coûte rien. Verset 24. Qui ne me coûte rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Bien-aimé, apprenons à donner à Dieu ce qui nous coûte. Quand il dit ce qui nous coûte, je ne dis pas aller voler chez quelqu'un pour venir donner à Dieu. Non, la veuve de Sarepta a donné sa pièce, sa dernière pièce. Ça lui coûtait. Amen. Ça lui coûtait. Ce que moi je suis, ce que par exemple maman Sylvie est capable de donner, peut-être toi tu n'es pas capable de donner, mais tu as ta capacité qui est un sacrifice devant Dieu. Alléluia. Peut-être maman Sylvie est capable de donner une voiture et toi tu es capable de donner un vélo. Alors si tu essaies de te comparer pour avoir une voiture, tu vas voler et tu vas te compromettre et ton don ne sera pas correct devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi quand tu vas avec ton don devant Dieu, ne regarde pas ce que ton frère apporte. Tu regardes ce que toi et ta relation avec Dieu, ça te coûte. Ça te coûte. Vous vous rappelez de cette bataille que le peuple d'Israël a eu contre le roi de Moab? Dans le livre de 2 Rois chapitre 22, 2 Rois chapitre 3, pardon. 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 26. Alléluia. Nous voyons le roi de Moab qui sentant que la bataille était à sa défaveur. Il va sacrifier son premier-né, l'héritier du trône. Et ça va provoquer une confusion au milieu du peuple d'Israël. Et chacun va rentrer dans sa tente. Alléluia. Voyez, Philippiens chapitre 2, le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Est-ce que nous sommes prêts à nous dépouiller nous-mêmes? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Alléluia. Et bien aimé, tu dois être un sacrifice. Tu dois apporter ton sacrifice. À la fin de ces 21 jours de jeûne, chacun apportera son sacrifice. Alléluia. Pour honorer Dieu, pour dire à Dieu, merci pour ces 21 jours, merci pour cette nouvelle année dans laquelle tu me donnes d'entrer. Alléluia. 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 Ce soir, je voudrais que tu pries, que tu arrêtes de dire, ok, on a prié ça depuis le matin, depuis toute la journée. Oh Dieu, ouvre-moi les portes, favorise-moi à gauche. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, traite mon cœur. Alléluia. Enlève ce qui n'est pas de toi. Amen. Seigneur, ôte mon cœur. Je veux avoir un bon cœur. Je veux manifester un bon cœur. Vous savez, Jésus a dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Alors, un bon cœur, quand tu vas commencer à faire du bien aux gens, pas par intérêt, alléluia, oui. J'ai une de mes filles, elle vivait toujours un peu, elle était un peu casanière. C'est-à-dire, elle vivait tout chez elle, un peu seule là, seule. Elle s'était un peu déconnectée de la famille, etc. Pas parce qu'elle était devenue chrétienne, mais avant ça, elle s'était déjà déconnectée. Elle vivait un peu dans son coin, seule. Personne ne lui rendait visite et elle-même ne rendait visite non plus à personne. Et un jour, elle a entendu un message comme celui-ci. Aie un bon cœur. J'avais prêché ça un jour. Et j'ai dit, fais l'expérience d'accueillir les gens aussi chez toi et d'être heureux avec eux. Vous savez, il y a des gens, si tu veux connaître, si tu es une bonne personne, demande ce que les enfants pensent de toi lorsqu'ils viennent à côté de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que les enfants, d'ailleurs, quand pas tes enfants, hein, tes enfants sont obligés de te dire la vérité, de te manager. Alléluia. Mais quand les enfants de tes frères, de tes sœurs, de tes cousins, de tes cousines viennent passer du temps chez toi et qui repartent. Demande-leur ou bien envoie quelqu'un vers eux. Dites-moi, comment va maman telle ou papa telle ou tonton telle ou tata telle. Ce qu'ils vont dire, sache que c'est les choses que tu dois travailler dans ta vie. Amen. Et donc, j'ai dit ça à cette sœur. Et elle, et l'année-là, les vacances-là, elle a demandé à ses sœurs de lui envoyer tous leurs enfants. Et un jour, je l'appelle, j'ai dit, mais c'est comment? Je t'ai pas vu depuis. Elle dit, papa, c'est toi qui m'as mis dans les problèmes, non? Elle dit, c'est quoi? Elle dit, tu as dit que tu as enseigné qu'on doit ouvrir les portes, laisser la famille, les enfants. J'ai pris tous mes neveux. Oh, le bruit à la maison. J'ai bavardé jusqu'à ma part est venue. J'ai dit que c'est bien. Ça veut dire que tu deviens sensible, tu te reconnectes à la vie. C'est ça la vie. Alléluia. C'est ça la vie. Quand tu es seul dans ton coin, tu crois que tu maîtrises tout, hein? Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. Alléluia. Et à la fin, je lui dis, et en dehors des bruits, elle dit, ah papa, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de m'occuper des personnes. C'était longtemps, à cause des batailles qu'elle avait eues, elle s'était déconnectée. Elle n'avait plus le plaisir de faire du bien, de se lever le matin tôt, de faire le petit déjeuner, de régler, de juger les problèmes entre X et Y. Elle dit, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie de nouveau vivante, concernée par la vie des autres. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui. À un moment, quand vous vous déconnectez beaucoup de vos familles, Satan met les cornes sur leur tête. Quand ils apparaissent, tu dis, oh, Satan 1, oh, Satan 2, oh, Satan 3, oh, Satan 5, oh, et c'est foutu. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas quoi? Non, c'est pas dans ta Bible, n'est-ce pas? Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est écrit. C'est écrit. Alors, tu dois faire attention. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Hey! Il a régné quoi? C'est pas moi qui écris, hein? C'est dans ta Bible aussi, ma fille. C'est dans ta Bible. J'ai cru que c'était ma Bible seule. Qui a encore ouvert sa Bible là? Qui a ouvert sa Bible à cet endroit? Hein? Le verset là t'énerve, tu ne veux pas lire. Voilà. Les gens qui ne lisent pas, c'est parce que ça les énerve. Ça vient taquer quelque chose dans votre cœur là. Tu as vu? En Sylvie, tu as vu? 1 Timothée chapitre 5. En Gertrude, tu as vu? Voilà les gens. Voilà les gens. C'est facile de savoir les gens que le diable a mis les cornes sur les membres de leur famille. Ils ne vont pas lire le verset là. Ils ne vont pas lire. Ah, Saturne, tu as vu? Voilà l'autre. tu as vu? Et d'ici, quelqu'un n'a pas soin de qui? Des siens. Et principalement de ceux. Il a régné quoi? Et il est pire? Ah, mon Dieu. Oh, mes frères, oh, mes sœurs, je ne veux pas qu'ils s'approchent de moi. Dieu dit que, attention, la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus, c'est aussi pour eux. Hein? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que beaucoup des membres de ta famille vont survivre à cause de ta foi chrétienne? Tu deviens source de bénédiction, sauf ceux qui vont se perdre. Sauf parmi les enfants, parmi ceux qui doivent sauver, il y a ceux qu'on appelle les fils de la perdition, hein? Alléluia. Il y a des membres de la famille que, quelles que soient les prières que tu vas élever, celui-là, il appartient à Satan. Il y a les Judas dans toute famille. Il faut seulement prier que dans ta famille, tu n'en aies pas plus qu'un. Amen. Si tu as deux Judas, tu es mort. Tu vas vite mourir avant ton temps. Si tu as trois, c'est foutu. Ta vie va s'arrêter avant 30 ans. Alléluia. Jésus avait un seul Judas, il a pu s'en sortir. Paul avait Alexandre le forgeron, il a livré à Satan. Alléluia. Il y a des gens dans la famille que quel que soit ce que tu vas dire, vont être contre toi. Ce n'est pas toi qui conteste, c'est la présence de Dieu en toi. Alors ne t'énerve pas contre eux. Parce qu'ils sont déjà jugés. En s'attaquant à toi, ils s'attaquent à la présence de Dieu, ils s'attaquent au nom de Dieu, ils s'attaquent au trône du Seigneur. Et Dieu va juger, traiter avec eux. Toi, tu veux te battre avec lui.